France Culture. La science CQFD, Natacha Trioux.
De nombreuses études viennent ausculter la sexualité des Françaises et Français et elles tordent le cou à quelques idées reçues. Mais comment étudier les pratiques et les habitudes sexuelles des jeunes générations ? Le premier constat peut étonner. Non, les jeunes n'entrent pas dans la sexualité de plus en plus tôt. Au contraire, l'entrée dans la vie sexuelle recule, en France comme ailleurs en Europe. Ces enquêtes nous apprennent aussi qu'il existe pour la jeunesse une plus large palette de possibilités d'orientation et d'identification sexuelle, mais aussi un trop grand nombre de victimes ou d'auteurs de violences. On constate également une dégradation de la santé sexuelle chez les moins de 25 ans, avec un bond des infections sexuellement transmissibles. À la croisée des sujets de santé publique, de santé mentale et de l'intime, comment ces enquêtes sont-elles menées ? Jeunes et sexualité, les nouvelles premières fois. Emmanuel Godeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin de santé publique, enseignante-chercheur à l'école de haute études en santé publique et responsable de l'enquête en classe. Fabienne Elkhoury, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en épidémiologie sociale affiliée à la Sorbonne Université, à l'INSERM. Et Lucille André, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef du magazine de l'INSERM, notre magazine partenaire avec comme grand angle pour ce nouveau et 66e numéro, enquête sur les nouvelles sexualités des jeunes, et vous co-animerez cette émission à mes côtés. Grand merci à vous trois d'être là avec nous, en direct dans nos studios à France Culture, et puis merci à vous d'être là, vous aussi au rendez-vous, en direct ou à toute heure, en podcast. Vous pouvez suivre cette émission sur Blue Sky, tous les jours, on poste pour vous de nombreuses informations complémentaires, c'est à retrouver sur notre compte @sciencesqfd. Alors quelle est la méthodologie appliquée pour enquêter sur de tels sujets ? Comment assurer une meilleure prévention pour les plus jeunes générations face aux VSS, les violences sexistes et sexuelles ? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais tout de suite, on commence avec notre archive du jour, nous sommes en 1976.
Vous avez fait l'amour pour la première fois à quel âge ?
16 ans et 6 mois.
Et toi ?
15 ans.
Comment ça s'est passé, première fois ?
Mal. Non, enfin, pas mal, mais enfin, disons qu'on m'avait toujours dit, ouais, faire l'amour, c'est important la première fois et tout. Je me suis dit, pas pour moi. J'ai été avec un mec que je connaissais pratiquement pas. Puis non, ça m'a pas du tout plu.
Et pourquoi t'as eu envie de faire l'amour comme ça
Mais j'ai pas vraiment eu envie, ça s'est fait comme ça. J'avais même pas envie. Ça s'est fait tout seul. On m'avait dit ouais, c'est important. Bah, j'ai dit non, la preuve.
Tu connaissais bien le garçon avec qui tu as fait l'amour la première fois?
Non, je connaissais pas bien.
C'était pareil, tu t'es lancée?
Oui, je m'en disais, essaye, tu verras, c'est bien et tout.
J'essayais.
Puis ça m'a plu.
Malgré la peur.
Malgré la peur.
Est-ce qu'autour de vous, il y a beaucoup de filles qui font l'amour à 15 ans, à 16 ans ?
Oh, il y en a, oui.
Oh, il y en a beaucoup, même.
Oui.
Même plus jeunes, qui commencent plus jeunes. Non, moi j'ai commencé, je savais quand même déjà pas mal de choses. Parce qu'on discutait, on discutait entre copains, entre copines et tout. C'était pas pareil. Enfin, j'ai commencé quand même à savoir jouer. Beaucoup de choses déjà.
Et moi, non. Je savais pratiquement rien. Moi, c'est peut-être aussi ça qui m'a pas plu la première fois, c'est que je savais pas quoi faire de mes mains, rien, j'étais paumée. Y'a rien à faire. Ma mère, elle m'en parlait pas. Même maintenant, je sais pas, je lui dirais la moitié de ce que je vous dis là, elle serait folle, malade. Elle m'en parlait pas. Bon, bah maintenant, depuis que je l'ai fait la première fois, j'en parle tout le temps. Et ça me gêne plus du tout.
Voilà la sexualité des adolescents sur FR3 en 1976. Emmanuel Godeau, bon, la première fois, c'est toujours une question qui nous préoccupe aujourd'hui en 2025.
Et oui, c'est une question que les adultes se posent toujours. Et c'est une question que les enquêtes qui travaillent sur les comportements de santé des adolescents posent toujours.
Votre écoute, Fabienne Elkhoury, de cette archive, je vous voyais également l'accompagner par des hochements de tête.
Bah oui, on voit bien l'évolution. J'aimerais bien dire qu'on voit bien l'évolution de certaines choses. Aujourd'hui, on peut peut-être pas dire que j'ai eu un rapport sexuel non désiré, ou bien moins. Et on voit bien un peu l'augmentation de l'intolérance à des violences, car pour moi, un rapport sexuel non désiré, c'est quand même une violence. Il y a une contrainte quelque part. Et un rapport sexuel sous contrainte, c'est une violence sexuelle. Et j'espère bien croire qu'aujourd'hui, la majorité des adolescentes ne vont pas dire que ah, c'était un rapport sexuel non désiré, même si, bien sûr, dans beaucoup de cas, il y a encore des rapports sexuels non désirés. Mais je pense que on a des perceptions de consentement, du désir, de la réciprocité qui ont évolué. Et je pense qu'avant, c'était plus la femme qui est l'objet, l'homme qui est le sujet. Et ça commence à améliorer, ça commence à être un peu plus équilibré, je dirais.
Et on va voir en effet comment les lignes bougent. Mais d'abord, Lucie Landry, comment vous aussi avez-vous écouté cette archive ?
Bah alors, c'est intéressant de voir que ces jeunes filles ont l'air de répondre finalement à une injonction, qu'elles ne se posent pas la question de leur propre désir, du consentement, et que finalement elles répondent à une sorte de norme sociale, et que voilà, c'est banalisé d'entrer dans la sexualité à l'époque, qu'on en ait envie ou qu'on n'en ait pas envie, en tout cas du côté des femmes.
Cette entrée dans la sexualité, en tout cas, elle est documentée par cette grosse enquête INSERM ANRS Santé publique France parue fin 2024, hein, contexte des sexualités en France. Premier constat, comme je disais, Emmanuel Godot, non, les jeunes n'entrent pas dans la sexualité de plus en plus tôt.
Et non. Et pourtant, on a toujours l'impression qu'on dit ça parce que sûrement que ça fait vendre les journaux ou que ça fait mieux discuter au café du commerce. Mais en effet, depuis de nombreuses années, l'entrée dans la sexualité recule. En France, comme dans les autres pays, comparables, et nous qui mesurons ça dans l'enquête en classe périodiquement, eh ben on
enquête
voit
en classe, qui est une grosse enquête depuis 2018.
Même avant.
Et qui est toujours en cours, en tout cas.
Et qui est toujours en cours, puisque c'est une enquête périodique. Et donc, en 2022, par exemple, on a interrogé plus de 10 000 collégiens et lycéens sur leur comportement de santé et leur sexualité. Et donc, on voit que ils sont de moins en moins nombreux, à la fois les collégiens et les lycéens, à déclarer avoir déjà eu des rapports sexuels, puisqu'on est à moins de la moitié en terminale. Donc, pas du tout la même chose que ce qu'on a entendu dans l'archive, en effet.
Alors, en effet, en 2023, cet âge médian du premier rapport sexuel était de 18,2 ans pour les filles, de 17,7 ans pour les garçons, alors qu'en 2016, il était de 17,6 pour les filles, 17 pour les garçons. Fabienne Elcoury, quelles sont les hypothèses pour expliquer ces chiffres ?
Alors, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer ces chiffres, mais une des explications, c'est aussi que les jeunes vont sortir moins. On voit bien ça. Bon, ça, c'est une des explications avancées. C'est par exemple, moi, je travaille aussi beaucoup sur l'usage de substances. Quand on regarde l'usage de plein de substances comme l'alcool, le tabac, le cannabis chez les jeunes, ça aussi, ça diminue. Mais une raison clé qui expliquerait tout ça, c'est que les jeunes vont sortir moins souvent. Ils sont plus sur leurs écrans. Une autre hypothèse, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est un peu aussi cette différence, cette évolution de ce qu'on appelle le script sexuel ou le scénario sexuel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend d'une fille, qu'est-ce qu'on attend d'un garçon, qu'est-ce qu'on attend d'un jeune homme, qu'est-ce qu'on attend d'une jeune femme lors d'un rapport sexuel hétérosexuel. Et là, on voit bien que les filles... les filles comprennent de plus en plus qu'on n'attend pas toujours d'elles d'être juste l'objet qui va juste rien faire et subir. Et du coup, il y a plus cette réciprocité et du coup, les rapports non désirés, car il y a plusieurs études, il y a même une dizaine d'études dans la littérature qui montrent que la plupart du temps, les premiers rapports sexuels, c'est plus perçu de manière négative chez les filles par rapport aux garçons. Du coup, là, les filles se rendent compte, si je veux pas, je veux dire non. Voilà, ça, c'est deux explications. Et il y a d'autres explications qui expliquent ça aussi. Alors, il y a aussi l'explication Covid, même si pour moi, l'épidémie, elle a plus amplifié, comme Emmanuel disait. Ça a plus amplifié les chiffres, les tendances, plus qu'elle a créé les tendances et que aussi, les jeunes sortent moins.
Oui, c'est une tendance qu'on observait déjà avant le Covid. Hein, ça commençait déjà dès les années 2010, il me semble, ce recul de l'âge médian, Lucie Landry.
Oui, tout à fait. En fait, ça peut s'expliquer aussi par un contexte économique, à savoir la crise économique de 2008, qui a en fait retardé le départ des jeunes de chez leurs parents, de leur foyer, et qui les a mis aussi dans une situation économique un petit peu plus fragile. Et en fait, tout ce contexte vient, encore une fois, retarder l'âge médian du premier rapport. Et puis, j'ajouterais aussi la question de la santé mentale, qui est très importante chez les jeunes. Elle s'est beaucoup dégradée ces dernières années, surtout chez les jeunes femmes. Et donc, ça aussi, ça peut expliquer effectivement le retard du premier rapport sexuel.
Néanmoins, on voit un contexte peu favorable, mais ce qu'on observe également, c'est que le nombre de partenaires sexuels dans la vie augmentait chez les adultes de 18 à 69 ans. On voit de plus en plus de partenaires et chez les femmes et chez les hommes. Alors là encore, Emmanuel Godeau, comment on explique cette augmentation ?
Alors, je peux pas vous dire chez les adolescents, parce que nous, on mesure pas ça. Par contre, une tendance qui, je pense, va avec cette ouverture des possibles de la sexualité, et que nous, pour le coup, on mesure, c'est on demande aux adolescents s'ils ont déjà été amoureux ou s'ils ont déjà été attirés par des personnes du même sexe, des deux sexes. Et on voit une augmentation des adolescents qui déclarent avoir été attirés ou amoureux de personnes du même sexe, une augmentation importante. Et ça, je pense que ça va avec aussi déclarer plus de partenaires, etc. Donc une sexualité peut-être plus ouverte, ou en tout cas qu'on ose dire plus ouverte qu'auparavant et plus variée.
Plus, en fait, ce serait plus le signe d'une parole qui, en effet, se libère, vous dites.
Sans doute qu'on ne peut pas, en tout cas dans les enquêtes telles que je les pratique, des enquêtes quantitatives, c'est difficile de faire la part entre quelque chose augmente ou diminue, enfin là augmente en l'occurrence, et on est plus à l'aise pour en parler, parce qu'il y a une déstigmatisation, parce que la société accepte plus un écart à la norme, sans doute.
Vous parlez en effet d'ouverture des possibles, Fabienne Elcoury, on constate également une augmentation des manières de s'identifier sexuellement.
Oui, exactement. Et c'est lié à cette déstigmatisation, c'est-à-dire avant, il y avait plus de stigmatisation envers les minorités sexuelles et les minorités de genre. Et aujourd'hui, on a cette déstigmatisation, mais aussi les jeunes vont voir plus, par exemple, dans les médias, plus des représentations, plus, entre guillemets, des gens comme eux et elles. Et ça fait que ils se sentent plus... déjà, elles savent... qu'est-ce qu'on peut pas faire, et c'est déstigmatisé, c'est plus courant, et on a plus honte de dire, par exemple, moi je m'identifie comme, par exemple, homosexuel ou autre minorité sexuelle ou de genre.
Lucie André, on parle des autres de minorités sexuelles, hein, entre 10 et 20%, ça dépend des études des gens qui se disent faire partie d'une minorité sexuelle, mais on voit aussi que les normes évoluent également chez les hétérosexuels.
Oui, effectivement, il y a une évolution chez les hétérosexuels. Je pense qu'on peut aussi l'expliquer avec l'évolution du féminisme, avec les femmes qui prennent conscience de certaines choses dans leur rapport aux hommes et dans les rapports de domination et de domination de genre. Donc tout ça, en fait, ce sont des facteurs finalement extrêmement positifs.
Sur ces facteurs-là, Emmanuel Godeau, comment vous aussi vous prenez le pouls de cette évolution et de cette ouverture des possibles ? Je vous vois hocher la tête, je traduis pour nos auditeurs.
Oui, alors je voudrais juste dire que nous, dans les quand on fait une enquête généraliste, on peut pas approfondir beaucoup chacun des sujets, et donc nous, dans l'enquête en classe, on n'a pas plein de questions sur la sexualité. L'intérêt, c'est de les croiser avec les autres déterminants de la santé ou les autres comportements. Et je rejoins du coup ce qu'a dit à la fois Fabienne et ce qu'a dit tout à l'heure Lucille sur le lien entre cette entrée dans la sexualité et la santé mentale et les autres prises de risque. Et en effet, on observe un recul de toutes les formes de prises de risque qui auparavant étaient assimilées au fait de devenir adulte. Je bois, je fume et j'ai une sexualité précoce. Et aujourd'hui, devenir adulte, ça passe beaucoup moins par ce type de comportement qui était une rupture avec l'ordre peut-être établi. Et les choses se reconfigurent autrement, et ça, on ne peut que le constater.
Alors comment justement mieux caractériser la fréquence, la nature, le contexte et l'âge des premières violences sexuelles subies ? Restez à l'écoute, on y arrive.
Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, avec Emmanuel Goudou et Fabienne Elcourt, nous parlons de la sexualité des plus jeunes en partenariat avec l'INSERM, co-animé avec Lucille André. On vient de faire un petit état des lieux de la vie sexuelle des jeunes générations, avec ce nombre de partenaires sexuels dans la vie qui augmente. On voit un chiffre qui a doublé en 30 ans maintenant. Parlons un peu plus de méthodologie, Fabienne Elcourt. Comment étudier ces pratiques-là? Parce que ce sont des questions, on le sent, même depuis le début de cette émission, ce sont des questions délicates. Peut-être faire un petit point méthodologie.
Exactement, c'est des questions délicates. Et quand on voit aussi les violences sexuelles, l'âge médian chez les femmes, ça va être de première victimisation, c'est autour de 13-14 ans. Et l'âge médian aussi chez les garçons, c'est autour de 11-12 ans. Du coup, ça vient très tôt. Mais en fait, méthodologiquement, comme scientifique, nous, on peut pas poser des questions chez les jeunes de moins de 15 ans sans un consentement parental. Du coup, nous, ce qu'on pose des questions, la plupart du temps, c'est des années après ces faits. Alors, pendant longtemps, on avait des questions comme, par exemple, avez-vous eu un rapport sexuel forcé ou bien êtes-vous victime de violences sexuelles ? C'est ce qui donnait une petite idée, mais qui n'était pas très exact, spécialement chez les jeunes et les jeunes adultes, mais aussi dans la population générale. Si on demande à une personne, êtes-vous victime de violences sexuelles ? C'est assez vague. Et la définition de violence sexuelle, elle n'est pas la même chez les mêmes personnes. Par exemple, pour rappel, une violence sexuelle, c'est tout acte sexuel subi, sous contraint ou non consenti. Et voilà, encore une fois, il y a beaucoup d'actes sexuels non consentis, spécialement sous les contraintes pas physiques, qui ne sont pas perçus comme des violences sexuelles. Aujourd'hui, on essaye de changer, on essaye d'avoir des questions plus précises, mais aussi plus compréhensibles, spécialement chez les jeunes. Du coup, on peut poser des questions à des jeunes à partir de 15 ans, et on va leur poser les questions, pas « êtes-vous victime de violences sexuelles ?» Encore une fois, effectivement, ça peut donner une petite idée, mais c'est pas très précis. On va poser la question, avez-vous eu un rapport sexuel non désiré? Et là, on va essayer de creuser un peu plus, mais aussi, on va utiliser des termes qui sont plus compréhensibles, plus simples pour les jeunes. Et avec cette approche, à travers une petite étude pilote, on a montré que même le fait de poser la question avez-vous eu un rapport sexuel non désiré ? Le fait d'avoir déclaré ça, c'est plus lié à une santé mentale dégradée. Du coup, c'est un bon indicateur de santé mentale et ça pourrait aussi être un bon outil pour dépister d'éventuels problèmes de santé mentale chez les victimes de violences sexuelles. Du coup, voilà, c'est tout un champ assez dynamique, car on essaye quand même d'utiliser le langage le plus simple possible et le plus précis.
Emmanuel Goudou, en effet, comment faire un bon questionnaire?
Alors, oui, ça, c'est une vraie question et c'est quelque chose qui, pour moi, est fondamental parce que, en effet, premièrement, quand on fait des enquêtes en population et en particulier sur les adolescents, il y a un premier principe qui est on croit ce que les adolescents répondent dans les questionnaires. On met pas en doute, on commence pas à dire oui, mais les adolescents, ils mentent, ils se vantent, etc. Non, on peut se dire que si on en a 10 000, il y en a peut-être quelques-uns qui surdéclarent ou qui sous-déclarent, mais sur la masse, on va croire les chiffres qu'on va obtenir. Pour ça, une autre condition, il y a deux autres conditions très importantes, c'est que on soit dans un échantillon représentatif de la population sur laquelle on veut travailler. Si on dit on est sur une enquête en France, eh ben il faut être sûr qu'on n'a pas été que à Paris, par exemple. Et puis, la dernière condition, c'est il faut que les questions, en effet, soient adaptées à la population sur laquelle on veut travailler. Et ça rejoint ce que vient de dire Fabienne, c'est-à-dire que avant d'aller poser une question à 10 000 élèves, on va s'assurer auprès d'un certain nombre d'entre eux dans des classes qu'on choisit pour faire des pilotes. On va leur poser les questions et puis après, on va discuter avec eux et leur dire « Quand je te demande, as-tu eu des rapports sexuels ? Qu'est-ce que tu as compris ?» etc., etc. Et avec ça, on valide la question et ensuite, on peut considérer qu'elle est bonne. Donc, c'est tout un travail de faire des enquêtes et en particulier sur des sujets sensibles.
Lucille André ?
Oui, effectivement, c'est toute la difficulté d'avoir des données qui sont en fait déclaratives. C'est aussi une difficulté chez les adultes, il faut le rappeler. Moi, de ce que les chercheuses et les chercheurs de l'INSERM ont pu me dire quand j'ai réalisé cette enquête, c'est effectivement l'importance accordée à ces questionnaires. Chaque question est étudiée, rien n'est laissé au hasard pour effectivement avoir des réponses les plus précises possibles et ensuite pouvoir fournir des données qui sont hyper claires et hyper précises.
Alors quel constat on peut faire en tout cas à l'heure actuelle sur les VSS subis par les plus jeunes, Emmanuel Godot ?
Alors là, je vais carrément passer la parole à Fabienne parce que c'est elle l'experte des violences.
Et Fabienne Elcoury, vous allez me dire que c'est en effet très compliqué de pouvoir en tout cas postuler sur l'évolution de ces violences-là.
Exactement, alors on ne peut pas vraiment parler que les violences augmentent. Alors ce qu'on peut... On peut être sûr que la déclaration des violences augmente. Quand on regarde n'importe quelle étude française, mais aussi d'autres études internationales en Europe, aux États-Unis, même dans d'autres pays, on voit bien que les jeunes vont déclarer plus de violences sexuelles que les plus âgés. Alors ça peut être aussi dû, par exemple, à un biais de mémoire, ce qu'on appelle un biais de mémoire, c'est-à-dire on va se rappeler moins à 50 ans de violences subies il y a 30 ans que chez les jeunes, mais aussi il y a plus de, comme on vient de dire tout à l'heure, on sait mieux définir les violences sexuelles, spécialement les agressions sexuelles. Du coup, les jeunes aussi vont être plus à l'aise de parler des violences sexuelles que, par exemple, des personnes plus âgées. Ça aussi, on voit bien ça. Du coup, est-ce qu'on peut dire vraiment que les violences augmentent ? On sait que la déclaration des violences augmente, que les plus jeunes vont déclarer plus. C'est peut-être dû notamment à une déstigmatisation. On est plus à l'aise, on se rappelle plus. Voilà. Mais aussi, ça peut être aussi dû à une vraie augmentation de violences sexuelles, car par rapport à il y a 20-30 ans, il y a d'autres types de violences sexuelles qu'on n'avait pas il y a 30 ans, notamment les violences sexuelles en ligne qui augmentent.
La cyberviolence à l'égard des femmes.
Voilà, mais aussi, exactement, mais aussi avec... On a plus de partenaires, on vient de dire qu'il y en a plus de partenaires. Qui dit plus de partenaires directement, on peut dire aussi plus de risques de subir des violences sexuelles, car il y a plus de partenaires et la plupart des violences sexuelles sont aussi quand même perpétuées par des partenaires ou des ex-partenaires. Du coup, mais on n'est pas encore sûr, il nous faut plus de temps pour voir est-ce qu'il y a vraiment une tendance d'augmentation ou c'est juste la déclaration qui a augmenté.
Par rapport justement à ces violences et peut-être par rapport également à la banalisation de tout ça, on peut citer la pornographie, 40% des garçons, 20% des filles en consomment. La majorité de ces contenus montrent des violences faites aux femmes, c'est environ 80%. Emmanuel Godot, ça participe à la banalisation de ces violences. Comment regarder ces données-là aussi vis-à-vis des plus jeunes publics et notamment des mineurs ?
Ben en effet, ça participe à la banalisation de la violence. Ça participe aussi à véhiculer une représentation de la sexualité extrêmement hétéronormée, avec une position de la femme inférieure à celle de l'homme, etc. Donc, ça donne une vision... Alors, c'est l'inverse exactement de ce qu'on a dit tout à l'heure, en disant le champ des possibles s'ouvre pour les nouvelles générations, mais en même temps, ils sont soumis à des images qui sont plutôt stéréotypées et plutôt normées et pas très... progressiste, on pourrait dire. Donc, il y a une tension entre ces phénomènes. Mais le fait est que de plus en plus de jeunes, notamment garçons, sont soumis à ces images qui peuvent, pour certains, être un peu prescriptives. Et je rejoins ce que disait Fabienne tout à l'heure autour du scénario. C'est-à-dire que si je l'ai vu dans un porno, est-ce que c'est ça que je dois faire, etc. Donc, c'est là que ça devient problématique.
Lucie Landré.
Effectivement, en plus, on sait que l'âge du premier visionnage en moyenne chez les jeunes, c'est de 14 ans. En sachant que normalement, c'est interdit aux mineurs, donc ça pose question. On sait également que plus les jeunes sont exposés régulièrement à de la pornographie, plus ils vont être en mesure d'intégrer ce qu'ils voient comme une norme et ensuite de le réintégrer dans leur propre rapport sexuel. Donc forcément, ça pose question et ça reste extrêmement problématique.
Fabienne Elcoury, vous faisiez le lien tout à l'heure également sur l'impact que cela a sur la santé mentale des filles, mais on peut aussi dire des jeunes qui s'identifient comme homosexuels, une santé mentale qui s'est dégradée pour ces populations-là.
Pas juste en lien avec le visionnage de porno.
Ah oui, non, je parle des VSS de façon
plus générale. Oui, effectivement. Et là, on voit bien, par exemple, si on regarde des données françaises, comme Lucille vient de dire, mais aussi des données anglaises, américaines, partout dans le monde, on voit bien que les jeunes, la santé mentale de jeunes, elle se dégrade, mais c'est systématiquement, et notamment chez les filles, que ça dégrade. Par exemple, en France, tu me corrigeras, Emmanuel, dans l'enquête en classe, les symptômes dépressifs, ça a passé de 12 à 13% chez les filles jusqu'à 21% chez les filles en terminale. C'est énorme, c'est préoccupant, alors que chez les garçons, ça tend un peu à la tendance à rester à peu près, on a à peu près le même taux. Et effectivement, toutes les études qui regardent l'effet des violences sexuelles, les violences sexuelles en ligne ou hors ligne, on voit un lien avec la santé mentale. Et on voit bien aussi que le cyberharcèlement, les violences sexuelles en ligne augmentent beaucoup, notamment chez les filles. On voit bien ce lien. Malheureusement, systématiquement, on n'inclut pas dans le même questionnaire des questions sur les violences sexuelles subies en ligne et hors ligne et la santé mentale, mais on le fait d'une manière plus systématique. Aujourd'hui, on le fait maintenant souvent. Et dans n'importe quelle étude où on regarde le lien, on voit l'association, on voit bien un lien. Et c'est préoccupant car les violences sexuelles, même si on dit que la déclaration peut-être augmente, mais ça n'a pas tendance à diminuer. Et la santé mentale aussi, elle se dégrade. Sachant que, bien sûr, c'est pas la seule explication pour la dégradation de la santé mentale chez les ados. Il y a d'autres facteurs aussi. C'est multifactoriel, mais quand même, c'est un facteur à ne pas négliger qu'on regarde de plus en plus.
Emmanuel Godot, vous souhaitiez réagir?
Oui, je voulais juste rajouter une chose, c'est que avec un certain nombre de collègues avec lesquels je travaille sur le sujet de la santé sexuelle des adolescents dans d'autres pays, ce qu'on a montré aussi, nous et puis d'autres, hein, c'est que les adolescents qui déclarent être amoureux de personnes du même sexe, soit des deux sexes, eh bien, non seulement ils s'engagent dans des comportements plus à risque, mais ils ont des risques de dégradation de leur santé mentale nettement supérieurs aux autres adolescents en termes de signes de dépression, tentatives de suicide et mal-être. Donc, certes, et encore une fois, on a dit aujourd'hui, le champ des possibles est plus large, mais pour des adolescents qui s'identifient clairement comme homosexuels ou bisexuels, tout n'est pas forcément si simple que ça.
On vient parler donc en effet de cette dégradation de santé mentale. Parlons à présent de la dégradation de cette santé sexuelle. Des infections bactériennes sexuellement transmissibles représentent un réel enjeu de santé publique. Alors quel est l'état de la santé sexuelle des plus jeunes générations? Restez avec nous.
Bye.
Girls and Boys de Blur en direct sur France Culture. La Science CQFD et l'INSERM font le point sur la santé sexuelle des jeunes filles et des jeunes garçons. Une émission co-animée avec Lucie Landré, rédactrice en chef du magazine de l'INSERM, et en compagnie de nos deux invités du jour, Emmanuel Godot, médecin de santé publique, enseignante-chercheur à l'EHESP, et Fabienne Alcoury, chercheuse en épidémiologie sociale affiliée à Sorbonne Université à l'INSERM. On vient de parler de santé mentale, parlons donc de santé sexuelle. On a vu une dégradation alarmante chez les jeunes. D'après Santé publique France, on observe un bond des IST, des infections sexuellement transmissibles, entre 2021 et 2023. On voit plus de 59% de cas de gonorrhée chez les hommes et plus de 46% chez les femmes. Emmanuel Godot, là encore, quelle hypothèse ?
Eh bien, là, pour le coup, on a une hypothèse première, qui est que ben, on a 30% des adolescents en 2022 qui nous ont dit qu'ils n'avaient utilisé aucune protection au dernier rapport, donc ni préservatif ni pilule. Donc partant de là, bah, si on ne met pas un préservatif, on court le risque d'attraper une infection sexuellement transmissible, par définition.
Lucie Landré, en effet, environ 1 sur 2 l'a utilisé lors de son premier rapport sexuel avec une personne rencontrée dans les 12 premiers mois. Le préservatif, le port du préservatif a diminué de façon alarmante.
Oui, exactement. Et ça concerne aussi le VIH, puisque maintenant les moins de 25 ans représentent 15% des 5000 nouvelles contaminations par an. En 2019, ils étaient 13%. Donc on voit effectivement qu'il y a aussi une conséquence à ce niveau-là qui montre en fait un manque de prévention et d'information finalement auprès de ce jeune public.
Un manque de prévention et d'information, Fabienne Alcoury, quel regard justement vous portez, vous, sur ces questions-là?
Je pense que ce qu'il faut aussi regarder, c'est les perceptions de la sévérité des IST, car on a passé tellement de temps en santé publique pour déstigmatiser, ce qui est super bien. Aujourd'hui, les IST sont plus déstigmatisées par rapport à avant, ce qui est un succès, une victoire de santé publique. Mais aussi, ce qui l'effet indésirable, si on peut le dire, de ça, c'est que les jeunes ont moins peur de contracter une IST, mais aussi en France, par exemple, on est les champions de la pilule le lendemain, ce qui est encore une fois une victoire de santé publique, car c'est un accès aux soins amélioré. Mais là aussi, quand on regarde certaines études sur les facteurs qui font que les ados, les jeunes vont utiliser plus, par exemple, le préservatif, c'est la peur de tomber enceinte et la peur des IST. Aujourd'hui, on a moins cette peur. Je ne dis pas qu'il faut augmenter la stigmatisation, mais je pense qu'il faut avoir des messages qui sont clairs, qui sont simples, qui ne déstigmatisent pas, mais qui aussi expliquent l'importance de se protéger sans stigmatiser.
Mais pourtant, les préservatifs sont devenus gratuits pour les moins de 26 ans. Emmanuel Godot, on a aussi, depuis juillet de 2025, l'assurance maladie qui offre aux 18-25 ans un dépistage gratuit des IST à l'aide d'un kit d'autoprélèvement réalisable à domicile. Alors, là encore, ça peut paraître étonnant, l'augmentation de ces chiffres d'infection.
Alors, s'il y a des kits de dépistage et s'il y a une déstigmatisation autour de ces maladies, on va peut-être plus volontiers se dépister. Donc, du coup, ça crée une augmentation.
Là encore, ce serait un biais, voilà.
Voilà, des cas. Mais la question des préservatifs gratuits pour les jeunes, il faut aussi. C'est pas parce que quelque chose existe que effectivement on en bénéficie. C'est-à-dire que si je suis un adolescent de 16 ans dans un village et que je dois aller à la pharmacie demander des préservatifs. Eh ben, ça va pas être facile, parce que si j'ai peur que quand je rentre dans la pharmacie, la pharmacienne, elle dise, ah, tu veux des préservatifs? Ou bien que quand je suis à la pharmacie, il y a la voisine de ma mère, ou je sais pas quoi, ben, je vais pas aller demander des préservatifs, tout simplement. Et puis, quand j'aurai envie d'avoir un rapport sexuel, eh ben, j'en aurai pas. Évidemment, si je suis à Paris, je vais partout, je pourrais en avoir, je fais 3 arrondissements, je connais plus personne dans la pharmacie, et c'est plus facile. Mais, la mise à disposition ne veut pas dire qu'on utilise quelque chose, même si on est persuadé que ce serait bien pour soi.
Oui, c'est ça. Il faut le savoir et puis il faut aussi oser demander. Oser. Lucie Landré, quelque chose à ajouter?
Alors moi, j'ajouterais qu'au-delà du préservatif, il existe aussi une vaccination contre les papillomavirus, HPV. dont certaines souches en fait sont très pathogènes et peuvent provoquer des cancers, donc chez les femmes mais aussi chez les garçons. Et donc il est très important d'être vacciné, une vaccination qui est ouverte aux jeunes filles à partir de 11 ans mais qui est ouverte aussi aux jeunes garçons, avec des rattrapages possibles même après le premier rapport sexuel.
Et on voit en effet par rapport au HPV hein, que la vaccination est largement insuffisante à l'heure actuelle.
Oui, elle est insuffisante. Il faudrait vraiment élargir cette vaccination, faire les rattrapages nécessaires. Et puis surtout, je crois qu'il faudrait informer sur la dangerosité de certaines souches qui peuvent donc, si on entre plus en précision, favoriser certains cancers génitaux, mais aussi des cancers oraux, ça on le sait moins, notamment de la bouche et de la gorge, encore une fois, chez les hommes et chez les femmes.
Voilà, c'est un vaccin qui est préconisé pour toutes les filles à partir de 11 ans, qui est tendu aux garçons depuis 2021, sauf que là, en 2024, seuls 48% des filles et 24% des garçons de 16 ans ont reçu les deux doses prescrites pour une vaccination complète. On continue sur ces questions de prévention avec le reportage du jour. Une hausse des infections sexuellement transmissibles s'observe chez les populations jeunes en France. Et pour les informer et proposer un accompagnement médical adapté, il existe des lieux d'accueil spécialisés. Et nous y sommes y allés. Et c'est avec vous, Céline Lozette. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Et vous êtes allée dans un de ces services au centre de santé sexuelle de l'Hôtel Dieu de la PHP.
Oui, il s'agit d'un centre qui propose un accueil et suivi thérapeutique gratuit et ouvert à tous. Soins infirmiers, psychologiques, examens sanguins, tests rapides, de VIH, syphilis ou prélèvement pour les chlamydiés et gonocoques ou encore vaccination. Tout est adapté pour traiter au mieux et au plus vite les patientes et les patients en misant aussi sur la prévention. Le professeur Nicolas Dupin, dermatologue et vénérologue, nous ouvre les portes pour découvrir le parcours de soins grâce à une équipe pluridisciplinaire de médecins, sages-femmes, infirmiers, conseillers familiaux, psychologues et sexologues.
Alors, ce qui est très important, c'est dans toutes ces activités, garder une confidentialité. Les gens viennent et donc, bien entendu, pouvant souffrir d'infections qui peuvent être un peu stigmatisantes. Donc, quand ils se présentent, généralement, ils sont accueillis au sein de notre secrétariat. Donc, les personnes se présentent et donc vous les interrogez sur leurs motifs de consultation. Est-ce que c'est un dépistage? Est-ce que c'est pour une infection? Ou est-ce que c'est pour une information?
Donc en fait, c'est vous vraiment qui êtes à l'étape zéro de l'accueil et de la prise en charge des patients?
Oui, tout à fait. Oui. Nous sommes vraiment le premier point où, donc, comme a expliqué le professeur Dupin, on accueille les personnes. Puis après, on les accompagne dans l'autre salle d'attente où le médecin va les recevoir.
Vous, en l'occurrence?
Exactement, moi en l'occurrence. Généralement, donc, ils vont aller dans la salle d'attente. Merci Valérie. Donc ils vont aller dans la salle d'attente située dans ce couloir. Donc lorsque les patients arrivent ici, par la suite, ils sont vus dans un box de consultation.
C'est des box dans lesquels on va délivrer des soins infirmiers.
Exactement. Alors, dans ces box-là, généralement, les patients peuvent avoir des manifestations cliniques. Donc on va les examiner. Et en fonction du type de consultation, il y a un certain nombre d'examens qui vont pouvoir être faits directement dans le centre. Et éventuellement, même des traitements peuvent être adaptés directement dans le centre. Si un de nos patients vient ici avec une gonococcie symptomatique, bien sûr, il va non seulement avoir le dépistage et la mise en évidence de la bactérie, mais en plus, on va lui délivrer le traitement par la même occasion.
Qu'est-ce qu'on trouve dans ce box? Il y a donc un lit, il y a des soins.
Comme vous voyez, c'est ce qu'on appelle une table d'examen qui permet également de faire des examens à la fois cutané, mais également gynécologique, proctologique éventuellement, bien sûr, s'il y a des IST. Il y a un certain nombre de choses qui permettent des gants, bien entendu, abaisse-langue, éventuellement des spéculums, éventuellement s'il est nécessaire de faire un examen gynécologique au niveau du col, et puis des prélèvements pour faire des écouvillons, pour faire des prélèvements. Et en fait, on a des kits de prélèvement au niveau anal, au niveau de la gorge, au niveau génital. Et ces kits de prélèvement seront faits par le patient lui-même, par auto-prélèvement. On lui donne un petit sac et il remet tous ces kits à l'intérieur du petit sac. Et il le donnera une fois qu'il aura fini de faire ces examens-là. Et là, l'infirmière ou l'infirmier vient les chercher pour faire la prise de sang si nécessaire, voire délivrer le traitement. Ce matin, j'ai vu un patient avec une syphilis et il a vu son traitement le même jour, c'est-à-dire une injection d'extensiline qui a été faite par l'infirmière dans le centre. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est quand même aussi assez unique c'est qu'il peut y avoir un laboratoire type un peu délocalisé, et on a conservé cette activité ici. Donc là, vous avez le box de soins. Donc Isabelle est une de nos infirmières de longue date. Hein, Isabelle ?
Voilà. Nous, on applique les prescriptions médicales hein, qui ont été prescrites par le docteur. Soit on fait des dépistages, soit il y a le suivi de PrEP, soit il y a les dispensations des traitements post-exposition.
Merci voilà.
On va vous laisser travailler.
Merci.
Merci Isabelle. Venez avec moi. Ludovic est également infirmier.
Bonjour.
Donc Ludovic est un de nos infirmiers qui fait également le protocole de coopération, donc de la prévention. De la,
oui, hein. Prévention.
Voilà.
Est-ce que vous diriez qu'il y a peut-être un défaut de prévention? Aujourd'hui, on parlait de l'augmentation de certaines incidences d'IST. Depuis 2021, en tout cas, est-ce que vous sentez cette augmentation et est-ce qu'il y aurait des efforts encore à faire au niveau de la prévention, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'informations?
Globalement, je dirais oui, même si on en fait quand même pas mal assez au niveau des publics jeunes et surtout aux alentours du 1er décembre par rapport à la Journée mondiale contre le sida, même si je trouve que ça serait bien qu'on le fasse plus toute l'année. À cette période-là, on a quand même pas mal d'affichages publicitaires, d'informations sur les dispositifs de prévention des IST, comme la PrEP ou les contraceptifs, enfin, et le préservatif surtout. Mais c'est vrai que ça manque, je trouve, de campagnes de prévention de santé publique le reste de l'année.
Est-ce que dans les entretiens que vous pouvez mener, vous observez une baisse du port du préservatif chez les jeunes populations? C'est une donnée qu'on peut vérifier au niveau déclaratif?
J'ai pas de chiffres en tête ou de notions. Ça arrive assez régulièrement quand même qu'on a des consultations pour des prises de risque sans de préservatif. Après moi, je revois beaucoup, j'entends beaucoup que c'est le préservatif, c'est plus un outil contre plutôt un dispositif de contre les IST.
Alors là, on est juste à l'entrée de notre petit laboratoire délocalisé, comme je vous disais tout à l'heure. Avec notre technicienne de laboratoire, Nadia, qui est là. Et donc ça, c'est quand même assez unique, c'est de pouvoir bénéficier en fait d'outils qui nous permettront de faire des diagnostics directs. Donc on a le fameux microscope qui nous permet de faire, par exemple, le diagnostic de syphilis primaire avec le chancre syphilitique.
Parce que,
exactement, avec le microscope à fond noir. Et puis, lorsqu'on a un écoulement génital ou anal, on peut être amené à faire des lames sur des petites lames avec des étalements sur une lame. Et notre technicienne va faire des colorations spécifiques qui vont permettre de détecter éventuellement le gonocoque ou de détecter une infection à Gardnerella, une vaginose ou une mycose génitale. Et puis on a également, vous voyez ici, un petit bloc, ce qu'on appelle des tests rapides d'orientation diagnostique et qui permettent en fait de faire des PCR hein, en temps réel. En une heure et demie, vous avez le résultat. Donc on a certains patients, on se pose la question, est-ce que c'est du chlamydia, est-ce que c'est du gonocoque, est-ce que je vais donner les deux traitements, et ça permet finalement de pouvoir orienter. On peut faire 4 prélèvements en même temps. Et sinon, de toutes les façons, tous nos examens, si on n'en a pas besoin dans l'immédiat, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, les prélèvements qui sont faits, partent d'ici et vont au laboratoire de bactériologie et de virologie de l'hôpital Cochin, où on va avoir les résultats généralement dans les 24-48 heures.
Merci Céline Lozen. Nos reportages loin du studio, c'est notre collection La Science au Labo, une collection à podcaster sur l'application Radio France. Une réaction à l'écoute de ce reportage, Emmanuel Godot?
Alors je retiendrai principalement une chose, c'est que le fait que tout soit sur place et que y ait un enchaînement entre l'examen clinique, les dépistages biologiques éventuels et puis s'il y a besoin la prescription voire l'injection et tout, ben ça correspond très bien à quelque chose qui peut marcher pour des adolescents qui sont un peu dans l'immédiateté. S'ils sont venus là, ben autant qu'ils aient tout avant qu'ils aient une autre envie, une autre idée et que ça devienne compliqué d'aller chercher l'antibiotique à la pharmacie, etc. Et puis pouf, ça y est, on les a perdus de vue et il y a une perte de chance dans le traitement. Et puis il me semble aussi que ça rejoint l'une des recommandations qui a été faite par le Bureau Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé quand on a sorti là, les données de 2022 sur la sexualité des ados en Europe, qui est de dire il faut aller par rapport à ces chiffres un peu alarmants de baisse du préservatif, augmentation des IST, etc., il faut vraiment développer les endroits accueillants pour les adolescents, les youth-friendly clinics, les endroits où tout est fait pour que des ados aient l'impression qu'ils sont le public, qu'on est là pour eux et qu'on va pouvoir les prendre en charge et en soin de manière spécifique. Et il me semble que cet endroit pourrait tout à fait correspondre à ce besoin-là.
Lucille André, vous aussi, votre réaction à l'écoute de ce reportage, ça vous a évoqué autre chose?
Oui, bah alors ça complète les propos d'Emmanuel Goudot. Ces lieux sont aussi là pour justement pour informer ces adolescents et ces adolescentes, parce qu'aujourd'hui on sait qu'ils se renseignent principalement entre eux, donc entre camarades de même âge, souvent du même sexe, même si les jeunes filles sont plus sollicitées que les jeunes garçons. Et leur deuxième source d'information, ce n'est pas Internet, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont donc les professionnels de santé, justement. Donc ces lieux ont tout à fait leur importance dans l'accompagnement de ces jeunes dans leur entrée dans la sexualité.
Par rapport à l'accompagnement, on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, c'est la question de la contraception, Emmanuel Goudot, avec cette question également de l'usage et l'utilisation de la pilule du lendemain, quand on parlait d'immédiateté également.
Alors, la pilule du lendemain, selon si on est optimiste ou pessimiste, si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, on peut dire « Ah mais là, ils ont pris une pilule du lendemain, ça veut dire qu'ils n'ont pas bien fait ce qu'ils avaient à faire ». Ou bien, et c'est ma posture et je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure Fabienne, ou bien on se dit, eh ben voilà des adolescents qui savent quoi faire quand il y a eu un problème d'inefficacité ou d'oubli de la contraception. Et donc c'est très bien qu'ils sachent où se procurer cette pilule, que ce soit dans les pharmacies, que ce soit à l'infirmerie de leur établissement scolaire, etc. Donc finalement, c'est plutôt bien. Et c'est sans doute parce que dans notre pays, la pilule du lendemain est disponible dans les établissements scolaires, qu'on est l'un des pays d'Europe dans lequel elle est le plus utilisée par les jeunes et que cette utilisation est en augmentation, même si elle n'est pas majoritaire.
Oui, en explosion, comme on a pu aussi le lire dans certains médias. Alors comment assurer une meilleure prévention pour les plus jeunes générations face aux IST et face aux VSS? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, sexualité des jeunes, une question de santé publique, une question que nous posons à Emmanuel Goudot, Fabienne Elkoury et co-animée par Lucille André. Alors, on vient de parler de santé psychique, de santé mentale, de santé sexuelle. Il y a ce programme EVARS, un programme dont on a beaucoup entendu parler. Quel est, peut-être le présenter avant de voir comment ce programme est mis en action dans les différents organismes et par l'éducation nationale. Quel est exactement ce programme, Fabienne Elkoury?
Oui, c'est un programme, c'est EVARS, c'est pour éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et c'est un programme qui va essayer de prévenir effectivement les violences sexuelles, mais aussi son but principal, c'est de lutter contre les stéréotypes sexistes, de parler de consentement, de parler des rôles non stéréotypés de genre, mais aussi de parler de harcèlement et d'autres types de violences verbales. Et en fait, c'est un programme qui dit progressiste, c'est-à-dire chez les étudiants et étudiantes à la maternelle, ça va pas parler du tout des violences sexuelles. Ça va parler de corps, de respect du corps, respect de nom. Ça va peut-être un peu parler sur l'harcèlement, mais avec un langage adapté. Et ça va évoluer avec l'âge, jusqu'à parler vraiment sur les violences sexistes et sexuelles plus tard. Alors, c'est effectivement, il y a une loi qui est sortie qui oblige, mais en fait ça fait des années, si je ne me trompe pas, ça fait des décennies où il y a une obligation de faire au moins un type d'EVARS dans les établissements scolaires, mais en fait on voit bien que c'est pas du tout fait. Et aujourd'hui effectivement il y a quand même un nouveau dynamisme, on essaye quand même de les mettre en place, mais si je comprends bien, il n'y a pas vraiment les moyens derrière pour assurer la formation, assurer le nombre derrière, assurer les personnels qui vont faire ces formations.
En effet, depuis la loi du 4 juillet 2001, une éducation à la sexualité doit être dispensée dans toutes les écoles, collèges, lycées, à raison de 3 séances par an. Mais dans les faits, les séances n'ont pas lieu dans 85% des établissements scolaires, Emmanuel Godot.
Alors, c'est ce chiffre de il y a que 85% qui le font, c'est l'inverse, il y a que 25% qui le font. C'était avant la mise en place de ce nouveau programme dont on peut attendre que ça marche mieux. La différence à ce qui se passait avant et qui peut-être peut nous donner un espoir que avec ce nouveau programme ça va marcher mieux, c'est que justement il y a un programme. Avant, on disait juste, il faut faire des séances. Mais chacun s'organisait comme il voulait. Et donc, finalement, c'était un peu dépendant de la motivation de l'enseignant, du chef d'établissement, et puis le réseau d'acteurs qu'il y avait autour de lui, s'il y avait des associations dynamiques, etc. Voilà. Désormais, il y a un programme très précis, niveau par niveau, avec les 3 séances, etc. Et comme l'a dit Fabienne, qui vont aller crescendo dans ce qu'on donne à voir et à réfléchir aux élèves. Donc, on peut se dire que du moment où il y a un programme, c'est peut-être plus facile pour les professionnels de s'en emparer. Pour autant, il faut peut-être aussi qu'ils soient formés, surtout que pour parler... effectivement, en maternelle, on ne parle pas de sexualité. On est sur les compétences psychosociales, etc. Mais quand on va devoir intervenir en collège ou en lycée, c'est pas parce qu'on a un programme qu'on est à l'aise pour parler avec des adolescents de sexualité. Donc il y a peut-être nécessité, là, pour le coup, d'une formation ad hoc. Et si elle n'est pas encore, il n'y a pas 100% des enseignants aujourd'hui qui sont formés à animer des séquences sur la sexualité avec des adolescents.
Parler consentement en VSS avec des élèves de collège, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça demande en effet des compétences que tout le monde n'a pas, Lucie Landry.
Oui, la formation, elle est indispensable, hein, que ce soit les enseignants, les infirmiers, infirmières scolaires. Quand j'ai réalisé cette enquête pour le magazine de l'INSERM, j'ai eu au téléphone, voilà, des échanges avec des sages-femmes, avec des CPE de lycée, de collège, qui me disaient que, en plus de ce manque de formation, il y a aussi un manque de temps, parce qu'on a donné un programme, mais on n'a pas donné les heures. Et donc, entre les examens gérés, les absences, les emplois du temps, etc., eh bien, ça devient un petit peu difficile de caser ces 3 séances par an pour chaque classe, de la maternelle jusqu'à la terminale.
Là, on arrive vers la fin de cette discussion, mais peut-être avant de retrouver la chronique d'Alexandra Delbeau dans 2 minutes, Emmanuel Godot et Fabienne Elcouré, je peux me tourner vers vous pour citer ces lieux de ressources vers lesquels on peut diriger les adolescents ou les parents d'adolescents qui nous écoutent. Emmanuel Godot d'abord.
Alors, sur le site de Santé publique France, il y a On s'exprime, qui est un site plutôt orienté vers les adolescents, pour le coup, sur lequel il y a beaucoup de ressources sur la sexualité, mais aussi la puberté, le corps, l'orientation sexuelle, etc. Le fil Santé Jeune aussi donne plein d'informations autour de la sexualité. Et je voudrais juste revenir quand même sur le programme, le nouveau programme EVARS. C'est pas encore tout à fait là, etc., etc., mais ça a quand même le mérite d'avoir remis sur la scène la nécessité de faire cette prévention et cette information aux élèves de la maternelle au lycée. Et en un moment où c'était un peu questionné, donc je pense que c'est important de dire que c'était bien qui est le lancement de ce programme. Toutes les conditions ne sont pas là, mais c'était quand même important.
Mais merci pour cette conclusion et merci à vous trois. Je vous rappelle que le 66e numéro du Mac de l'INSERM Enquête sur les nouvelles sexualités des jeunes est en ligne. On vous a posté le lien sur notre compte Blue Sky. Et puis surtout, je vous invite aussi à glisser dans vos oreilles l'excellente série consacrée par les Pieds sur Terre sur France Culture, dernière nouvelle du sexe, 20 ans d'évolution des sexualités. Grand merci. Tout de suite, on part observer une tempête stellaire très lointaine. C'est la chronique avec science.
À quoi ressemble une éruption sur une autre étoile que le Soleil? Ces phénomènes sont bien connus pour notre étoile. La semaine dernière encore, l'activité solaire a été extrêmement intense. Ça veut dire que des flots de particules énergétiques provenant du Soleil ont frappé la Terre et c'est aussi ce qui provoque des aurores polaires. Heureusement, notre champ magnétique terrestre nous protège en grande partie de ces éruptions. Et qu'elles soient solaires ou stellaires, donc dans n'importe quelle autre étoile de l'univers, ces tempêtes naissent, elles aussi, dans le champ magnétique. Cyril Tasse est astronome à l'Observatoire de Paris.
Le Soleil ou une étoile, c'est une grosse boule de plasma très chaud. Un plasma, c'est un gaz qui est ionisé, c'est-à-dire que les électrons sont arrachés aux atomes. Et ces électrons arrachés aux atomes peuvent véhiculer du courant électrique. Et le courant électrique, en retour, peut créer un champ magnétique. Donc à la surface de toutes les étoiles, on a ces champs magnétiques qui se forment. Et comme les étoiles sont chaudes, on a des bulles de convection à la surface de l'étoile, comme dans une casserole de riz en train de cuire. Alors on a des grands mouvements de matière, et ces grands mouvements de matière créent des champs magnétiques complexes à la surface de l'étoile. Il y a une forme de tension qui se crée dans le champ magnétique, comme quand on tord une corde, on la fait torsader. En fait, on a des cœurs magnétiques comme ça, qui se tendent et qui se tordent à mesure que les bulles de convection plient la corde. Et à un moment, la corde magnétique casse, et c'est ça qui libère l'énergie lors de cette explosion magnétique. Et donc c'est ça qu'on appelle une éjection de masse coronale, en fait, car cette explosion en fait entraîne de la matière avec elle.
On sait que c'est ce qui se passe dans notre Soleil. On sait que ça doit se produire ailleurs, mais on n'avait encore jamais observé directement le choc créé par cette corde magnétique qui se rompt. Or, c'est essentiel pour comprendre les conditions qui règnent sur les exoplanètes autour de ces étoiles. Et c'est ce que rapporte cette nouvelle étude parue dans la revue Nature, la première observation directe d'une éruption stellaire. Cette étoile est située à 133 années-lumière de nous, et cette découverte s'est faite un petit peu par hasard. Elle vient du radiotélescope européen LOFAR. Ça veut dire qu'il observe dans le domaine radio, c'est une gamme de longueur d'onde de la lumière, au même titre que l'infrarouge ou les UV. À la base, cet instrument scrute les galaxies et les trous noirs, donc rien à voir avec les étoiles, mais comme les particules très énergétiques produites lors d'une éruption émettent elles aussi dans les ondes radio, les scientifiques ont fouillé dans la quantité de données déjà collectées pour voir s'il n'y avait pas eu, récemment, une éruption stellaire détectable. Résultat, oui, c'est le cas, et elle n'a rien à voir avec ce que produit notre Soleil. Elle est 10 000 à 100 000 fois plus puissante qu'une éruption solaire classique.
C'est vraiment le point très important, c'est la puissance. Donc il y a quelque chose de vraiment très spécial, c'est une éruption vraiment géante qu'on a pu observer. C'est-à-dire qu'elle a les mêmes caractéristiques. C'est un choc qui se propage dans une atmosphère stellaire. Cette atmosphère, elle n'est pas si différente que ça du Soleil, elle est un petit peu plus chaude. Et en fait, il se trouve que c'est une étoile qui est plus petite que le Soleil. Donc, c'est une naine rouge. Elle doit faire 70% de son rayon, 50% de sa masse. C'est une étoile qui est plus froide. Et donc, comment une étoile plus petite peut produire une éjection aussi puissante? Et c'est justement lié à ces mouvements de convection dans les étoiles. On pense que les étoiles plus petites peuvent être plus convectives. C'est-à-dire que les étoiles plus petites peuvent avoir une couche de convection qui serait beaucoup plus épaisse et qui pourrait même relier directement le cœur de l'étoile. Et donc, on aurait des bulles convectives qui seraient beaucoup plus grandes et qui pourraient générer des champs magnétiques plus forts et plus grands spatialement. Et donc, on aurait des phénomènes qui auraient des énergies beaucoup plus élevées que dans le cas du Soleil.
Pour vous donner une image, une éruption solaire, c'est une petite brise. Et cette éruption stellaire, c'est un ouragan. Et c'est le début d'un tout nouveau domaine d'étude qui est la météo extrasolaire, la météo de l'espace. Maintenant, il faut savoir si cette éruption est particulièrement extraordinaire ou assez commune pour les naines rouges, qui sont parmi les étoiles les plus abondantes de l'univers. Et pour cela, il faudra attendre la mise en service de SCA, un radiotélescope géant, qui va être déployé à l'horizon 2028 entre l'Afrique du Sud et l'Australie. Et l'enjeu est majeur, pas seulement pour notre connaissance de la physique stellaire, mais pour l'habitabilité des planètes autour. Une telle éruption aurait soufflé notre atmosphère. Et sans atmosphère, pas d'effet de serre, pas de chaleur, pas d'eau liquide et donc pas de vie. Comprendre si ces tempêtes géantes sont fréquentes pourrait nous obliger à revoir la notion même de zone habitable autour des étoiles.
Merci Alexandra, c'était extra. Et merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Nicolas Leroulet. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.